Mozart à Paris. Lundi 23 mars 1778. À Versailles, le roi et la reine reçoivent officiellement le plénipotentiaire américain Benjamin Franklin. Il devient l'idole de Paris. Sa simplicité a conquis les Français. Il est vrai qu'il n'y a que 2 mois que la France a reconnu les États-Unis et a signé avec eux des traités de commerce et d'alliance. Mais il y a un autre événement qui surpasse tous les autres. Voltaire est à Paris. Il n'a pas mis les pieds dans la capitale depuis 25 ans. Son apparition est celle d'un apôtre, d'un prophète. On se bat pour l'approcher. Il a 84 ans. On l'a dit mourant et on découvre un vieillard plus frétillant, plus mordant que jamais. Cet homme joue avec la mort. Quand l'abbé Gautier, qui voulait le confesser, lui a annoncé qu'il venait de la part de Dieu, Voltaire a répondu « Pouvez-vous me montrer vos lettres de créance ?» Jamais Paris n'a été plus brillant, plus animé. Les encyclopédistes tiennent le haut du pavé. Rousseau joue les ermites, le magnétiseur Mesmer attire une foule considérable dans ses salons. On y fait, paraît-il, des expériences avec un baquet. C'est ce jour-là, le lundi 23 mars 1778 donc, qu'arrive également à Paris une voiture bien modeste dans laquelle se trouve Wolfgang Amadeus Mozart, accompagné de sa mère qui le chaperonne, le surveille, comme quand il est venu pour la première fois à l'âge de 7 ans.
Ah, à cette époque-là, Paris m'attendait, Paris m'ouvrait ses bras, on aimait l'enfant plus que le musicien. On me caressait parce que je ne dérangeais personne. Je tenais sagement ma place au clavecin, entre les petits nègres et les chiens. Aujourd'hui, c'est autre chose.
Ah, aujourd'hui, il a 22 ans. Il a écrit 15 concertis, 31 symphonies, 13 messes et 7 opéras. Très peu joué, il est vrai, et écouté avec une certaine condescendance. Alors pourquoi ce voyage, monsieur Michel Noiret ?
Les raisons du voyage sont d'obtenir 2 choses. D'abord, un travail permanent, un poste, si c'est possible, et ensuite une commande d'opéra. Alors, obtenir un travail permanent à Paris, ça n'était pas véritablement facile pour un étranger qui n'y avait pas été depuis longtemps. Mais obtenir la commande d'un opéra dans les combinaisons et les supputations de Mozart et de son père, c'était une chose possible parce que Paris était une ville apparemment fermée parce que l'opéra français ne se faisait que en français. Et qu'on ne représentait pas d'opéra en langue italienne ou en langue allemande. Mais d'un autre côté, on faisait venir énormément d'étrangers pour composer de l'opéra français. Donc Mozart et son père se sont dit « Pourquoi pas moi ou pourquoi pas mon fils ?» Par ailleurs, ils avaient tous les deux une conscience très forte du génie de Wolfgang. Wolfgang était le premier bien placé pour avoir une très très haute opinion de soi-même. Et son père était aux premières loges aussi pour s'émerveiller devant les capacités de son fils, qu'il avait devant lui tous les jours. Et tous les jours apportait son lot de surprises et de miracles. Wolfgang qui arrivait à tout faire quasiment sans l'avoir appris. Donc le père de Mozart a envoyé à son fils, lorsque Wolfgang était à Mannheim, en Allemagne, il lui a envoyé une lettre en lui disant « Il faut que tu ailles à Paris et que tu sois ou César ou rien ». Et il lui a dit en latin, parce que c'était des gens instruits, « Aut Caesar, aut nihil ». Donc, soit tu seras le plus grand empereur qui ait jamais régné, soit tu ne seras rien. Et je pense que psychologiquement, ce n'était peut-être pas la meilleure manière de lancer son fils à la recherche d'un travail.
Paris a adulé l'enfant Mozart. Paris refuse de connaître Mozart compositeur. Il faut dire que Mozart ne fait rien pour séduire ceux qui pourraient l'aider. D'abord, il n'est pas très beau avec sa petite taille, sa grosse tête blonde, son nez trop grand, sa gaucherie et son accent tudesque. C'est un garçon du peuple. Ses ancêtres n'ont jamais été admis à une cour avant son père Léopold. Et Léopold, qui est sûr du génie de Wolfgang, se désespère.
Tu te montres trop prompt à répondre à n'importe qui sur le ton de la plaisanterie à la première perche tendue. C'est déjà le premier pas vers la familiarité. Il ne faut pas la rechercher dans ce monde-là si l'on veut continuer à être respecté. Tu as un peu trop d'orgueil et d'amour-propre. Tu ouvres trop vite ton cœur. En voulant être libre et naturel, tu tombes dans un excès d'intimité. Écoute le baron Grimm, à qui nous devons tout, et qui ne peut être que d'excellents conseils. Tu es trop candide, trop facile à rouler, trop peu occupé des moyens qui peuvent te conduire à la fortune. Pour percer à Paris, il faut être retors, entreprenant, audacieux. Je voudrais pour ta fortune la moitié moins de talent et deux fois plus d'entre-gens.
La moitié de talent ? Mais je suis Mozart, hein ? Que croient-ils tous ces gens ? Que parce que je suis jeune et humble, il ne peut rien exister en moi de grand et de mûr ? Eh bien, ils vont s'en rendre compte bientôt. Je ne suis entouré que de brutes et de bêtes en fait de musique. Les Français n'ont plus du tout la même politesse qu'il y a 15 ans. Ils frisent maintenant la grossièreté et sont abominablement orgueilleux. Savez-vous ce qui m'est arrivé hier ?
Non.
Je devais jouer chez Madame de Chabot. J'ai dû attendre dans une grande galerie glacée, sans feu, au moins une demi-heure avant de jouer mes variations devant la duchesse et ses invités qui étaient en train de dessiner, tous assis en cercle autour d'une table. Madame et tous ces messieurs n'interrompirent pas un seul instant leur dessin, de sorte que j'ai joué pour les sièges, les tables et les murs. Mais quelle humiliation!
Mozart était assez peu diplomate, Michel Noiret. Il était même assez brusque dans ses propos et même parfois maladroit, non ?
Que Mozart ait été parfois cavalier avec des personnages importants, c'est certain. Il le dit lui-même. Lorsqu'on lui a proposé de lui payer certaines choses, il l'a refusé parce qu'il trouvait que ça n'était pas assez. Et donc, il se peut qu'il le fait dans des termes qui n'étaient pas suffisamment diplomatiques. Mais on a d'autres exemples de personnages très peu diplomatiques qui étaient pourtant adulés par la vie intellectuelle française. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, à partir d'un certain moment... Au début, évidemment, c'était un ours que l'on a rejeté. Mais à la fin de sa vie, Jean-Jacques Rousseau se comportait très mal avec les visiteurs qui allaient le voir. Et le monde entier essayait d'avoir des rendez-vous avec lui, même en sachant qu'on allait se faire mettre à la porte. C'est la même chose avec Voltaire, qui mettait à la porte un visiteur sur deux ou même plus, mais qui pourtant était l'objet d'une véritable vénération. Gluck, le grand compositeur bohémien qui était très en vogue à Paris à cette époque-là, était un ours très très mal léché, c'était un buveur, il parlait mal, il était grossier avec les femmes, il était grossier avec tout le monde. Et tout le monde disait « Ah, quel génie, quel génie !» Donc, pour Mozart, en fait, on aurait pu dire la même chose. C'est simplement qu'il ne s'est pas trouvé dans le milieu adéquat. Mais pour Mozart, c'était une question de stratégie. Et la stratégie demandait du temps. Et finalement, il ne l'a pas maîtrisée parce qu'il avait derrière lui son père.
À Paris, une guerre secoue les milieux de la musique. La querelle s'est élevée entre les partisans de Gluck et ceux de Piccini. On ne demande plus « est-il janséniste, philosophe ou dévot ?» On demande, est-il gluckiste ou pitchiniste ? Gluck était sur le trône. On ne jouait pratiquement que lui à l'opéra depuis l'avènement de Marie-Antoinette. Mais le trône chancelle sous les assauts des italianisants depuis l'arrivée de Piccinni à Paris. Les partisans de l'opéra bouffe se coalisent. La France se trouve à la rencontre de l'influence allemande et du flux méditerranéen. L'opéra de Paris est dans une grande confusion. Quant à Mozart, oh ben c'est simple, Mozart, lui, il n'aime pas la musique française. Pourquoi ?
Alors, pour comprendre ce jugement, il faut savoir que c'est tout à fait normal que d'un pays à l'autre, on n'apprécie pas le style qui n'est pas le style d'origine. Pour Mozart, son style d'origine, ça n'était pas le style allemand, c'est le style italien. Donc, le style de la musique française, c'était comme une autre langue. C'était tout simplement en dehors de l'horizon culturel de Mozart. Au XVIIIe siècle, lorsqu'on n'aimait pas, on n'aimait pas. Et on pouvait s'intéresser à d'autres musiques que la sienne propre. Par exemple, Mozart, certainement pendant son séjour à Paris, a beaucoup étudié la musique française. Il le dit à son père qu'il a passé son temps à lire des partitions dans les bibliothèques des personnages qu'il invitait. Puisque les hôtels particuliers avaient une bibliothèque, comme on le sait quand on va en visiter. Et donc on peut imaginer le jeune Mozart passant des journées entières à lire partition après partition, la poser sur son piano et se les jouer. Donc il a étudié, il a pris des choses qui se retrouvent dans ses œuvres, qui se retrouvent en particulier dans l'opéra Idoménée, qui est une grande œuvre qu'il a écrite peu de temps après son séjour à Paris. Mais d'un autre côté, il y a des choses qu'il ne supportait pas, en particulier la manière très particulière qu'avaient les Français de chanter. Et il le dit, il en parle très précisément dans une lettre où il dit que les Français chantent par la gorge et par le nez. C'est-à-dire qu'ils avaient une voix qui était coincée et non pas une voix qui sortait de la tête de manière naturelle. Il détestait, il trouvait ça insupportable et comme pour lui la musique était sa vie, ça devait, je pense, lui faire mal, un mal physique. C'est comme si on lui avait marché très fort sur le pied ou si on lui avait fraisé une dent que de l'obliger à entendre de la musique française chantée par des Français.
Allez, 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 allez. Ah, moi, je glisse dans mon âme.
La mienne est en paix, Dieu merci, je prends d'être charivari.
Vive la bonne femme,
la sonnerie Marie.
Allez, 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 allez.
C'est grotesque, hein? Quand les acteurs, les actrices poussent l'indécence jusqu'à se produire hors des coulisses. Et quant à l'orchestre, hein, on dirait un vieux coche traîné par des chevaux éthiques et conduit par un sourd de naissance. On n'entend que des cris affreux, de longs mugissements. Les chanteurs arrachent les glapissements de leurs poumons, les poings fermés, la tête en arrière, les faisceaux gonflés. Ce qu'il y a de plus inconcevable, c'est que ces hurlements sont presque toujours la seule chose qu'applaudissent les spectateurs.
Le jeune Mozart crie à l'injustice. Pourquoi ? Pourquoi Gluck et pas lui ? Pourquoi Piccinni et pas lui ? Pourquoi Gossec et pas lui ? La spontanéité, l'essence divine de ses dons, son génie, sont infiniment supérieurs à ceux de Gluck, de 40 ans son aîné. Mais Gluck s'est imposé à Paris. Il a dompté Paris, alors que Mozart est incapable de s'imposer à cette société. Oh, ce n'est pas une question d'âge, c'est parce que Gluck, c'est Gluck, et Mozart, c'est Mozart. Et il enrage. Il se sent tellement au-dessus de tous ses compositeurs. Son père, resté à Salzbourg, ne sait que faire pour guider ce jeune animal fougueux.
Il y a autre chose, je le sais, qui t'éloigne de Paris par la pensée.
Eh oui, il y a autre chose.
C'est cette voix, sa voix, la voix de mon Aloysia, que j'ai dû laisser à Mannheim. C'est pour elle que j'ai écrit cela. Je n'ai de pensée que pour elle, au lieu de penser à ma réussite. Mes parents ont réussi à m'arracher à la famille Weber, à ma chère Aloysia, et j'ai laissé mon cœur à Mannheim. J'y retournerai le plus vite possible.
Il écrit à Aloysia des lettres pleines de respect, où ses sentiments ne transparaissent pourtant pas.
Ses sentiments transparaissent beaucoup plus ouvertement dans ses lettres à son père, où il tourne tellement autour du pot qu'il est évident qu'il est terriblement amoureux d'Aloysia. Et son père lui répond, écoute, ce n'est pas la peine de me cacher ça, c'est tellement évident que tu peux bien m'en parler. Et son père lui dit même, lorsque tu seras rentré à Salzbourg, tu pourras correspondre avec cette fille, je te promets de ne pas mettre mon nez dans ta correspondance. Donc le brave Léopold n'était pas si méchant qu'on veut le penser, ou en tout cas il était très conscient de la pulsion autoritaire et investigatrice qu'il avait. Donc Aloysia, Mozart y pensait, mais ça n'est pas à cause d'elle qu'il a échoué à Paris. Ce qu'il voulait, c'est avoir du travail, et il savait que le travail engendre le travail. Donc ce qu'il aurait voulu, c'est ensuite faire de la musique avec elle, et en particulier en Italie. Il se voyait bien à Naples ou à Venise avec Aloysia, lui comme compositeur d'opéra, elle comme chanteuse et comme prima donna de ses opéras. C'était son rêve.
Je crois que je ne pourrais m'établir à Paris que dans le domaine de l'opéra. Et pourtant, c'est dans le domaine de la musique instrumentale que Paris est davantage tourné vers les pays de langue allemande. Il y a de grands orchestres excellents, bien habitués à la musique de Haydn. Et je pense qu'avec nos amis de Mannheim, qui se trouvent ici, je pourrais présenter quelques œuvres au concert spirituel. Cher père, j'ai conçu cette symphonie de Paris à une plus vaste échelle que mes symphonies précédentes, tant par le style que par les effectifs instrumentaux. Rassurez-vous, je n'ai pas oublié le premier coup d'archer. Ces bœufs en font toute une affaire ici.
Décidément, Mozart a le don de se mettre à dos tous les musiciens influents dont il ne peut plus solliciter le soutien. On a beaucoup évoqué son caractère fruste et même vulgaire. Il est vrai qu'il a laissé quelques exemples de son humour scatologique. Il aime choquer, mais certains intimes, certains connaisseurs ne s'y trompent pas.
Jamais on ne reconnaissait moins le grand Mozart que lorsqu'il était occupé à un ouvrage important. En ces moments, non seulement il s'exprimait de manière confuse et désordonnée, mais il faisait aussi des plaisanteries qu'on n'attendait pas de lui, et parfois même, il s'oubliait délibérément dans sa conduite. Il dissimulait sa tension intérieure sous une frivolité superficielle, où il prenait plaisir à opposer brutalement les divines idées de sa musique à ses soudains éclats de vulgarité et à s'amuser en semblant se moquer de soi-même.
Les revenus des musiciens sont très modestes à cette époque. Beaucoup de paiements se font en nature, même pour Haydn. La plupart de ces musiciens talentueux sont attachés à des aristocrates et ont un statut social à peine plus élevé que les domestiques. Parfois même, ces musiciens sont astreints à de petites tâches extra-musicales. Témoin cette annonce publiée dans le Wiener Zeitung.
Cher valet de chambre musicien, on demande un musicien qui joue bien du piano, qui sache aussi chanter et puisse donner des leçons de l'un et de l'autre. Ce musicien devra, en même temps, remplir les fonctions de valet de chambre.
Mozart n'accepte pas ce statut. Il le trouve déshonorant.
Vivre pauvrement, mais libre.
Le 14 mai, s'offre à lui une chance véritable. Un ami, Jean-Joseph Rodolphe, corniste de la Chapelle Royale, est un homme influent. Il pense pouvoir faire obtenir à Mozart le poste d'organiste à Versailles.
Combien ?
2000 livres par an.
Où devrais-je jouer ?
6 mois à Versailles et 6 mois à Paris.
Je dois réfléchir.
Le voisinage de la famille royale est un avantage inestimable. Le service est une sinécure qui vous laisse tout votre temps pour composer.
Oui, mais je devrais passer au moins un an en France. Et je veux revoir Aloysia. Non, décidément, ce poste ne m'intéresse pas. Et puis, 2000 livres, ce n'est pas une très grosse somme.
Paris va-t-il enfin m'écouter ? J'ai produit avant-hier ma musique de ballet, Les Petits Riens, que le public a apprécié. Demain, chez le comte Sickingen, je donnerai ma nouvelle symphonie en ré majeur. Et une semaine plus tard, elle sera donnée au concert spirituel. Pas moins que je n'ai pas de commande véritable, excepté le concerto pour flûte et harpe pour le comte de Guinness et sa fille. Il semble que ma musique ne fascine plus les riches et les personnes influentes. Mais les personnes influentes ne me fascinent pas non plus.
On a l'impression que les chances de réussite d'un artiste à Paris sont assez aléatoires à cette époque. Que faut-il pour émerger dans les milieux artistiques ?
Il y a deux instances qui prennent une décision. Il y a l'instance qui juge et il y a l'instance qui signe l'échec, pour aller vite. Et ces instances sont séparées. Or, l'instance qui juge, elle, pour Mozart, évidemment, ne pouvait être que favorable, c'est-à-dire ses amis musiciens. Mais l'instance qui signe l'échec, ce sont des administrateurs. Et ces administrateurs n'ont sans doute pas eu le courage de se lancer. Ils voulaient des preuves et le jugement des musiciens ne leur suffisait pas. Or, en France, il y a une longue tradition qui avait déjà commencé au XVIIIe siècle, selon laquelle les hommes politiques ne s'intéressaient pas à la musique, mais vraiment pas du tout. Le dernier qui s'y était intéressé, c'était le duc d'Orléans, le successeur de Louis XIV, le régent, qui était lui-même un compositeur et un homme très cultivé dans tous les domaines. Mais Louis XV ne connaissait strictement rien en musique et ça ne l'intéressait pas. Et Louis XVI, qui était au pouvoir en 1778, quand il allait à l'opéra, il dormait. Ça ne l'intéressait pas le moins du monde.
Le 30 mai 1778. Voltaire est mort. Jean-Jacques Rousseau a écrit aussitôt une épigramme.
Plus bel esprit que grand génie, sans loi, sans mœurs et sans vertu, il est mort comme il a vécu, couvert de gloire et d'infamie.
De juillet, Jean-Jacques Rousseau est mort à Ermenonville. Il a survécu 32 jours à Voltaire. Des deux grands adversaires, c'est Rousseau qui est resté le dernier. Mais quel combat !
Voltaire et Rousseau en 2 mois ? Et comment va faire la France pour penser, pour agir ?
Juillet 1778, à 22h21, la mère de Mozart s'éteint. Wolfgang rédige 2 lettres. Celle écrite à son père cherche à le préparer, lui disant que sa mère est malade. Et pour atténuer le choc, sans doute, il aborde aussitôt un autre sujet.
Maintenant, je vous donne une nouvelle que vous connaissez peut-être déjà. Savoir que cet athée et grande crapule de Voltaire est crevé comme un chien, pour ainsi dire, comme une bête. Voilà sa récompense.
On peut s'étonner de la désinvolture de Mozart en la circonstance. La mort de sa mère ne semble pas non plus le frapper outre mesure. Il est vrai qu'il n'aimait pas beaucoup cette femme qu'il avait sur le dos depuis 22 ans. La disparition de sa mère est-elle un soulagement pour Wolfgang ? Peut-être. En tout cas, il écrit à l'abbé Bollinger, ami de la famille, sur un autre ton.
Je me console parce que je sais que Dieu, qui ordonne tout pour notre mieux, le veut ainsi. Car je crois qu'aucun docteur, aucun homme, aucun malheur, aucun hasard ne peut donner la vie à l'homme ou la reprendre. Mais Dieu seul.
Sachant son fils perdu dans Paris, le père Mozart demande à Wolfgang d'aller loger chez leur protecteur, Melchior von Grimm. Wolfgang, qui rêve d'un peu de liberté, n'ose pas contrarier son père, mais peu après, il lui écrit
« Monsieur Grimm est peut-être capable d'aider les enfants, mais non les adultes. N'imaginez pas qu'il est tel qu'il était. »
Le moins qu'on puisse dire, c'est que Mozart n'aime pas von Grimm, même si celui-ci lui rend service.
Grimm n'a jamais rien demandé. C'est Léopold qui lui a imposé son fils, qui lui a demandé de s'en occuper. Grimm a dit « Bon, je veux bien, je veux faire ce que je peux. » Mais il est probable que Mozart lui ait un peu tapé sur les nerfs, et ça, on ne peut absolument pas savoir pourquoi. Pour ce qui est des relations personnelles, on ne sait que ce que Mozart nous en dit. Et il n'aimait pas le baron Grimm pour commencer, il se peut qu'il lui a fait sentir, et puis ce n'est peut-être pas allé plus loin que ça.
Juillet 1778. Louis XVI écrit à l'amiral de France une lettre qui confirme la déclaration de guerre de la France à l'Angleterre. Il prescrit aux commandants des escadres et aux capitaines de tous ses vaisseaux de cours sus à ceux du roi d'Angleterre. La situation en Europe se complique. Mozart pense rentrer chez lui, ou plutôt, il pense qu'il va pouvoir retrouver son Aloysia à Mannheim. Mais Aloysia est devenue cantatrice. Et cette situation ne plaît guère au père de Mozart. On n'épouse pas un musicien ou une musicienne. Amadeus peut espérer un meilleur parti, son père en est persuadé. Lui, Amadeus, semble avoir un autre point de vue sur le mariage.
Le mariage de Schiedenhofen est un mariage d'argent et rien de plus. Je ne me marierai pas ainsi. Je veux rendre ma femme heureuse et non faire mon bonheur grâce à elle. C'est pourquoi je laisse les choses telles qu'elles sont, en jouissant de ma liberté dorée, jusqu'à être en mesure de pouvoir nourrir femme et enfant. Schiedenhofen devait épouser une femme riche, noblesse oblige. Les nobles ne peuvent pas se marier par goût, par amour, mais uniquement par intérêt. Il ne siérait en outre pas du tout à ces hauts personnages d'aimer de surcroît leur épouse une fois qu'elle a fait son devoir et mis au monde un gros héritier mâle. Quelle chance de ne pas appartenir à ce monde.
Mozart est déçu, amer. Il n'a pas trouvé à Paris toute l'amitié et l'estime qu'il attendait. Les historiens parlent même d'un réseau de faux amis qui lui avaient promis des choses et qui n'ont rien fait.
Je ne sais pas exactement ce qui avait été promis à Mozart. Il y a une personne qui certainement s'était surestimée, c'est Nauvert, qui était le maître de ballet de l'Opéra de Paris. Il avait un poste très important, il était chorégraphe, et il connaissait Mozart par l'Autriche, puisque Mozart avait établi lui-même un très grand nombre de contacts depuis qu'il avait 5 ans. Donc quand il arrive à Paris à 22 ans, il a déjà une très très longue carrière derrière lui. Et les musiciens et les hommes du métier qui l'estiment vraiment beaucoup. Donc lorsque Nauvert lui a proposé d'écrire un ballet pour l'Opéra de Paris et puis ensuite de l'aider à obtenir une commande d'opéra, il était certainement sincère. Mais Nauvert pensait avoir davantage de pouvoir qu'il n'en avait. Et là derrière, je ne vois aucune intrigue. Il y a certainement beaucoup de gens qui promettent d'aider les autres et puis qui s'aperçoivent qu'ils n'y arrivent pas.
Einstein parle de faux amis en fait.
Pour prendre l'expression d'Einstein, un faux ami, moi je n'en vois pas. Je vois plutôt autour de lui soit de vrais amis qui ont fait tout ce qu'ils ont pu, soit des gens indifférents. Les meilleurs contacts de Mozart, c'était les siens propres et non pas du tout ceux de son père. Lorsque son père l'a envoyé à Paris, il l'a envoyé avec une masse de lettres de recommandation. Il y en avait pour les ducs, les comtes, les princes, les barons, les ambassadeurs de toutes sortes de pays, et de membres de la cour, et des gens influents, et des gens de lettres, des journalistes. Et cette abondante documentation n'a servi absolument à rien à Mozart. Car ces gens, au fond, Léopold les avait complètement mal jugés. Mozart ne les intéressait pas. En revanche, Mozart, lui, avait des contacts qui étaient extrêmement sûrs, extrêmement solides. Et c'était ses amis à lui, pas du tout les amis de son père. Et c'était des musiciens de Mannheim, qui était une petite principauté d'Allemagne, qui avait, on peut dire, le meilleur orchestre d'Europe à ce moment-là. Et son orchestre était tellement fort qu'il exportait ses musiciens vers Paris. Et donc, ce sont des amis de Mozart qui étaient au cœur du système musical parisien et qui pouvaient dire « Le jeune Wolfgang est un génie, il faut lui donner du travail. » Et de ce point de vue-là, ça a marché.
Le 27 juillet 1778. Combat naval au large d'Ouessant. 27 vaisseaux français contre 32 vaisseaux anglais. Ce ne sera pas une grande victoire pour la France. En revanche, on annonce à Versailles une bonne nouvelle. La première grossesse de la reine.
Tout cela n'est rien à côté de la nouvelle que je viens de recevoir, moi. Jean-Sébastien Bach vient à Paris.
Ils se sont déjà rencontrés lorsque Mozart avait 7 ans. L'enfant avait gardé un souvenir ému de ce grand musicien. Il veut le revoir.
Sa joie et ma joie lorsque nous nous sommes retrouvés, vous l'imaginez facilement. Peut-être sa joie n'est-elle pas aussi sincère, mais il faut reconnaître que c'est un homme honorable et qui traite équitablement les gens.
Le 26 septembre 1778. Au terme d'un séjour de 6 mois, Amadeus quitte Paris et s'arrête à Munich, où il loge chez les Weber, qui ont quitté Mannheim. Mais Aloysia n'a pas attendu Wolfgang. Elle est devenue l'épouse d'un chanteur. Wolfgang regarde alors l'autre sœur Weber, Constance. Et ma foi, il la trouve à son goût. La vie de Mozart va peut-être commencer. Quand on fait le bilan du séjour de Mozart à Paris, les historiens ne trouvent que des points négatifs. Enfin, pas tous.
Je ne voudrais pas avoir l'air cynique. Je ne voudrais pas avoir l'air de dire que ce séjour parisien de Mozart a été une merveilleuse période. Si on fait, comme le font beaucoup de commentateurs, le procès des Français, qui, c'est vrai, n'ont pas reconnu le plus grand génie de leur temps, il faudrait pouvoir faire un procès à charge et à décharge. Or, on n'a que le point de vue de Mozart. Il faudrait avoir le point de vue de la défense. Il faudrait savoir pourquoi Le Gros, le directeur d'une organisation de concert, n'a pas voulu faire exécuter davantage d'œuvres de lui. Il faut savoir pourquoi un certain rouage de l'Académie royale de musique, c'est-à-dire de l'Opéra de Paris, pourquoi on n'a pas voulu lui commander d'opéra. Et on n'en sait strictement rien. En l'absence de documents, je préfère ne pas condamner et je préfère voir cette affaire comme une histoire extraordinairement complexe où jouent des contraintes sociales, des contraintes culturelles, des facteurs personnels. Est-ce que le hasard est déterminant? Il se peut qu'effectivement une accumulation de petits hasards ait mené à ça, alors que à quelques jours près, les choses auraient pu se jouer de manière complètement différente.
Un an et demi après, la musique de Mozart commençait à connaître une grande vogue.
Mozart appartient à ces hommes extraordinaires dont la renommée durera des siècles. Son grand génie embrasse, pour ainsi dire, toute l'étendue de l'art musical. Personne avant lui ne l'a surpassé, et la postérité ne refusera jamais à ce grand homme une vénération et une admiration profonde.
Voilà. Wolfgang Amadeus était devenu Mozart. Mozart à Paris, avec les voix de Jean-François Rigazzi et Léon Lesac, et la participation de Michel Noiret, qui a écrit l'analyse du Così fan tutte et de Don Giovanni dans l'avant-scène opéra. Il a également traduit le Voyage musical dans l'Europe des Lumières de Burnet chez Flammarion. Reportage Jean-Baptiste Fourré. Mixage, Marie-Dominique Bougot et Pascal Ayerbe. Réalisation, Emmanuel Geoffroy. Si vous désirez réécouter nos émissions ou correspondre avec nous, notre adresse électronique est toujours franceinter.com. Voilà, au revoir, à dimanche.